VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mardi 26 janvier 2016. À la une ce soir.
République démocratique du Congo, la mission de paix de l'ONU à un nouveau dirigeant militaire.
L'activité économique perturbée au Tchad et dans l'extrême nord du Cameroun à cause des attaques de Boko Haram.
Beaucoup de véhicules ont été attaqués par Boko Haram. Ça pèse sur la vie et les activités de commerçants.
En Tunisie, le parti Nida Tounes perd son statut de premier bloc parlementaire au profit de ses alliés islamistes d'Ennahda.
250 millions au cœur de la tempête. L'UNICEF compte un enfant sur neuf dans les zones de conflit à travers le monde.
Politique américaine, à une semaine du premier scrutin de la campagne présidentielle, Donald Trump et Hillary Clinton dominent dans les sondages.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Un militaire sud-africain prend les rênes de la MONUSCO, la mission onusienne en République démocratique du Congo. Le lieutenant général Derek Mugwembi a été désigné par le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon. Il est actuellement chef des opérations conjointes des forces de défense sud-africaines.
Guinée-Bissau, le chef de l'État, José Mário Vaz, a reçu les partis politiques sans représentativité au Parlement. Rencontre qui intervient dans le cadre des consultations du président bissau-guinéen avec les forces vives du pays sur la crise politique actuelle. Sur place, Noah Mankali.
À la sortie de la rencontre, au nom de plus d'une vingtaine de formations politiques, Idrissa Diallo, président du Parti de l'Unité nationale, a qualifié de très grave la crise que traverse la Guinée-Bissau et pour cela, il a conseillé au président José Mário Vaz d'être très prudent dans ses décisions.
Notre avis, c'est que cette situation est extrêmement grave. Ce n'est pas une petite crise, c'est une crise d'un système politique, c'est une crise de l'État, d'une certaine façon, et que lui, comme garant de la Constitution, et dernier recours, il doit mesurer de façon très prudente les décisions qu'il va prendre.
D'après ce responsable, le président de la République est très précipité pour intervenir, chose qui risque de bloquer davantage la situation.
Le président est pressé de toutes parts pour intervenir, mais la grande difficulté, c'est comment intervenir et comment décider.
Toutes les institutions de l'État sont presque bloquées par cette crise. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
La Tanzanie menace d'expulser des centaines de migrants éthiopiens. Entrés illégalement dans le pays, ils tentent de rejoindre l'Afrique du Sud. L'Éthiopie connaît sa pire sécheresse en 50 ans, avec plus de 10 millions de personnes incapables de se nourrir après avoir perdu leurs récoltes et animaux.
En Tunisie, le parti islamiste modéré Ennahda est de nouveau majoritaire au Parlement, après le départ aujourd'hui d'un groupe de députés dissidents, Claire Morin-Gibourg.
Nida Tounes, le parti fondé par l'actuel chef de l'État tunisien, Beji Caïb Essebsi, a perdu aujourd'hui son statut de premier bloc parlementaire au profit de ses alliés islamistes, d'Ennahda. Ce nouvel équilibre politique ne remet pas en cause à court terme le soutien de la majorité parlementaire au gouvernement de Habib Essid, mais il constitue une nouvelle étape dans le délitement de Nida Tounes, parti déchiré par une guerre de succession depuis le départ de son chef pour la présidence fin 2014. Les 22 députés démissionnaires de Nida Tounes se sont regroupés au sein d'un nouveau bloc, Al-Hora, ce qui signifie la libre. Les membres d'Al-Hora font pour la plupart partie du clan de Mohsen Marzouk, secrétaire général démissionnaire de Nida Tounes, qui doit lancer début mars une nouvelle formation.
Libye, un nouveau gouvernement d'union nationale sera proposé dans un délai de 10 jours. C'est ce que rapporte un responsable libyen cité par l'AFP. Il faut dire qu'un gouvernement a été proposé hier, mais le Parlement reconnu l'a rejeté en raison du trop grand nombre de ministres.
Une célèbre chroniqueuse égyptienne condamnée à 3 ans de prison pour insulte à l'islam. C'est ce que rapporte une source judiciaire citée par l'AFP. Fatima Naout a critiqué l'abattage des animaux pendant l'Aïd al-Adha, la grande fête musulmane du sacrifice. Elle a écrit « Joyeux massacre » sur sa page Facebook au moment des célébrations de 2014.
250 millions d'enfants vivent dans des pays touchés par des conflits, dont en Afrique. Une situation que déplore ce mardi le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Pour les aider, l'UNICEF a besoin de 2,8 milliards de dollars cette année. On fait le point avec Jacques Aristide.
Le constat de l'UNICEF est on ne peut plus clair. Le nombre d'enfants impliqués dans des crises humanitaires dans le monde est stupéfiant et consternant. Des enfants qui courent deux fois plus de risques de mourir de maladies, pour la plupart évitables, d'après l'agence qui indique que l'enveloppe réclamée lui permettra de venir en aide à 76 millions de personnes, dont 43 millions d'enfants répartis dans 63 pays. Pour ce qui est de l'Afrique, l'UNICEF demande 25,5 millions de dollars pour protéger les enfants au Burundi et fournir une aide aux réfugiés burundais qui ont fui vers le Rwanda et la Tanzanie. 188,9 millions pour répondre aux besoins humanitaires au Nigeria, Cameroun, Niger et au Tchad. L'appel concerne également des pays en proie à des crises prolongées comme la République démocratique du Congo et le Soudan. Toutefois, la plus grande partie du budget, près d'1,16 milliard de dollars, sera consacrée à la Syrie et à la crise des réfugiés syriens en Égypte, Irak, Jordanie, au Liban et en Turquie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain John Kerry se rend à Pékin ce mercredi pour exhorter le gouvernement chinois à accroître la pression sur Pyongyang, dont il est le principal allié économique. La Corée du Nord a récemment effectué un nouvel essai nucléaire, provoquant la colère de Washington. La Chine est la dernière étape d'une tournée asiatique qui a aussi conduit le chef de la diplomatie américaine au Laos et au Cambodge.
Le chef de l'Église catholique a exhorté l'Iran à se servir de son rôle important pour promouvoir la paix au Moyen-Orient et aider à mettre fin un frein au terrorisme ainsi qu'au trafic d'armes. L'appel du pape François est intervenu lors d'une rencontre à huis clos de 40 minutes avec le président iranien Hassan Rouhani ce mardi au Vatican. Depuis son accession au trône de Saint-Pierre, il y a environ 3 ans, le souverain pontife a insisté sur la médiation et le dialogue comme les meilleurs moyens de résoudre les conflits. La visite en Italie de M. Rouhani est la première d'un chef d'État iranien en près de 20 ans.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a vivement critiqué ce mardi la poursuite de la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée, appelant à un gel des constructions. M. Ban s'adressait au Conseil de sécurité lors d'un débat sur le Proche-Orient. Pour Ban Ki-moon, les parties doivent agir et agir immédiatement pour éviter que la solution à deux États ne disparaissent pour toujours.
Le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, a indiqué ce mardi qu'il y avait encore des questions très difficiles à régler sur les compositions des délégations et l'ordre du jour des négociations sur la Syrie qui doivent débuter vendredi à Genève. La Turquie a de son côté averti qu'elle ne participera pas à ces pourparlers de paix si les Kurdes syriens du parti de l'Union démocratique y sont représentés.
Sur le terrain, un fief rebelle est tombé hier soir aux mains du régime syrien, appuyé par l'aviation russe, des officiers iraniens et les combattants du Hezbollah libanais. L'armée de Bachar al-Assad a repris une ville stratégique dans la province méridionale de Dera, près de la frontière jordanienne.
En France, une forte manifestation sociale a perturbé les transports parisiens. Taxis, contrôleurs aériens, enseignants et fonctionnaires sont en grève. Ils dénonçaient la baisse du pouvoir d'achat. Parmi eux, les chauffeurs de taxi étaient les plus nombreux. Maëlys Segal.
Environ 1500 taxis ont manifesté sur différents sites en région parisienne, aux aéroports d'Orly et de Roissy et à proximité du ministère de l'économie. Ils dénonçaient la politique du ministre de l'économie, Emmanuel Macron, avec des slogans comme « Stop macronisation » ou « Terrorisme économique ». Mais avant tout, ils protestent contre la concurrence des voitures de transport avec chauffeurs VTC, les fameux Uber. Très vite, des taxis ont interrompu la circulation dans les deux sens sur le périphérique parisien et ont incendié des pneus. Une vingtaine de personnes a été interpellée. Le Premier ministre Manuel Valls, qui a reçu les chauffeurs à la mi-journée, a condamné ces violences inadmissibles. Les syndicats réclament une compensation pour l'activité plus réduite du secteur et dénoncent la baisse du prix des licences. Selon eux, les VTC ne respectent pas la loi et cassent les prix. Les taxis parisiens subiraient une baisse d'activité de 20 à 30%. Les fonctionnaires ont également manifesté pour une hausse de leur pouvoir d'achat, mais aussi contre la perte d'emplois dans des secteurs clés de la fonction publique.
Politique américaine, un sondage de l'université Quinnipiac révèle une course très serrée dans l'Iowa entre le milliardaire Donald Trump et le conservateur Ted Cruz, sénateur du Texas. Les deux candidats sont virtuellement à égalité à une semaine du premier scrutin de cette année électorale. Par contre, au plan national, Trump maintient une solide avance sur tous ses concurrents. Chez les démocrates, Hillary Clinton mène la danse devant Bernie Sanders et Martin O'Malley. Les trois ont partagé un forum en présence des électeurs de l'Iowa hier soir. Nous vous en parlerons un peu plus tard dans cette édition.
Dans l'est des États-Unis, c'est un retour difficile à une vie normale après le passage de la tempête de neige qui a fait près de 33 morts. Idriss Fall.
Washington est quadrillé par des convois de chasse-neige pour tenter de dégager les principales avenues. Le gouvernement fédéral est fermé. La Chambre des représentants a suspendu ses travaux. En Virginie et dans le Maryland voisin, quelques autoroutes sont encore partiellement bloquées et la plupart des écoles restent fermées. 56 cm de neige à Washington et 67 cm à New York sont des records historiques. Le retour à la normale a été plus rapide à New York. Les écoles ont rouvert dès lundi et le trafic dans la mégalopole a renoué avec ces embouteillages monstres. Des températures plus chaudes sont annoncées pour les prochains jours. Seulement, la neige fondue au petit matin se transforme en gigantesque plaque de verglas, augmentant encore les risques d'accidents.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Bientôt une carte bancaire commune en Afrique centrale. Le groupement interbancaire monétique de l'Afrique centrale procédera le 29 janvier à Yaoundé au lancement officiel de la carte JIMAC, indique la Nouvelle Tribune du Maroc. Cette carte permettra d'effectuer des opérations de retrait d'argent et des paiements sur les terminaux électroniques des pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. L'île Maurice a été la plus grosse source d'investissement au Zimbabwe entre 2009 et 2015. Selon un rapport de l'autorité d'investissement du Zimbabwe cité par Chine Nouvelle, l'île a investi 4,560 milliards de dollars devant la Chine, l'Afrique du Sud et le Nigeria. L'île Maurice offre les avantages d'un centre financier offshore où il n'y a pas de taxes sur la plus-value, ni de retenue d'impôts et de charges sur le capital souscrit d'une société, écrit le journal Le Mauricien. En outre, le pays possède une juridiction basée sur des traités de non-double imposition et de protection des investissements. La deuxième édition de la semaine des douanes ivoiriennes s'est ouverte lundi à Abidjan. Pour le directeur général des douanes, Issa Koulibaly, il s'agit de dialoguer avec les partenaires et de relever les forces et les faiblesses de cette régie financière. Pendant cette semaine, le public pourra ainsi s'informer directement à la source sur les procédures douanières, les réformes et la célérité et la sécurisation des recettes, a-t-il ajouté.
Merci Nathalie.
Tout de suite, l'actualité sportive avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
CHAN 2016, dans le groupe, c'est la Tunisie et la Guinée en quart de finale.
Oui, première participation réussie pour la Guinée au championnat d'Afrique des Nations. Le Sili National a arraché ce mardi son ticket pour les quarts de finale en disposant du Nigeria leader avant la dernière journée sur le score d'un but à zéro. Les Guinéens terminent à la deuxième place derrière la Tunisie qui, elle, a pulvérisé le Niger sur le score sans appel de 5 à 0.
Résultat de la troisième et dernière journée dans le groupe B.
Oui, le Cameroun a battu le Congo par 3-1. 3-1, tandis que l'Angola a sauvé l'honneur en dominant l'Éthiopie par 2-1. Conséquence, le Cameroun rejoint la Côte d'Ivoire en quart de finale prévu le 30 janvier prochain. Le Rwanda, pays hôte, croisera le fer avec la RDC à Kigali le même jour.
En football, toujours Bagassi, Gervinho va en Chine.
Voilà, l'attaquant international ivoirien de l'AS Roma, âgé de 28 ans, s'est engagé avec le Hebei China Fortune FC, annonce faite ce mardi par le club chinois de la lucrative Super League. Le montant et la durée du transfert n'ont pas été précisés, Chérubin. Selon certains médias, la transaction s'élèverait autour de 18 millions d'euros et la durée du contrat serait de 3 ans.
Course à la présidence de la FIFA, 5 candidats confirmés.
Oui, la FIFA a confirmé la candidature à la présidence de Cheikh Salman, du prince Ali, de Gianni Infantino et du français Jérôme Champagne et de l'Africain, le Sud-Africain Tokyo Sexwale. L'élection est prévue dans un mois, le 26 février à Zurich. Les 209 fédérations qui composent la FIFA désireront alors à cette date le successeur de Joseph Blatter, président démissionnaire est suspendu 8 ans.
Et quelques secondes pour la NBA, le championnat nord-américain de basketball.
Eh bien, LeBron James et les Cavaliers de Cleveland dominent Minnesota 114 à 107. Boston facile contre Washington 116 à 91. Miami bat Chicago 89 à 84. Memphis bat Orlando 108 à 102. 111 à 112 pour Houston face à la Nouvelle-Orléans.
Merci Bagassi.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorsil et Morgane Guériac, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale ce soir, Bangui.
La Cour constitutionnelle de transition de la République centrafricaine a annoncé l'annulation des élections législatives sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision intervient en raison de nombreuses irrégularités constatées au premier tour. Les explications de notre correspondant à Bangui, Thierry Anatole Bomba Mebourou.
Cette décision se justifie par le fait que des carences et difficultés ont émaillé le processus des législatives. Ces problèmes vont du chamboulement des numéros des candidats, de la non-apparition du nom de certains candidats sur le bulletin de vote, à la confusion entre les listes des circonscriptions, jusqu'à l'indisponibilité des bulletins de vote dans certaines circonscriptions de Bangui et des provinces. C'est au vu de tous ces problèmes et de la jonction des requêtes des candidats lésés par la décision de l'autorité nationale des élections que la Cour constitutionnelle de transition a ordonné la réorganisation des législatives sur toute l'étendue du territoire centrafricain.
Mais qu'en est-il des candidats qui ont obtenu la majorité ou du moins qui ont été élus au premier tour?
Il y avait 1619 candidats qui s'étaient présentés aux législatives, dont 22 sont passés au premier tour. Malheureusement, la décision de la Cour constitutionnelle ordonne la réorganisation des législatives, ce qui veut dire que la décision de l'ANE qui donnait victoire aux 22 candidats sont à revoir, ce qui signifie que ces 22 candidats doivent s'aligner car la décision de la Cour constitutionnelle de transition est sans recours.
Quel est l'état d'esprit de la population ce mois après la proclamation de ces résultats?
Pour certains, c'est un sentiment de soulagement car le désordre constaté dans l'organisation de ces législatives a été si grotesque, tandis que d'autres qualifient cela de contrariété entre la décision 003 qui ordonna l'envoi de Georges Boléguilé et Fossin Archange Touadéra au deuxième tour, car ils disent que ce sont les mêmes problèmes qui ont émaillé le processus des législatives qui ont fait que 5 candidats à la présidentielle avaient déposé leur requête auprès de la Cour constitutionnelle. En tout cas, chacun interprète la décision de la Cour constitutionnelle à sa manière et selon les circonstances.
Voilà, c'était notre correspondant à Bangui, Thierry Anatole Bomba Mebourou, joint par Félix et Passy Zembrou.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
L'activité économique est sérieusement perturbée au Tchad et dans l'extrême nord du Cameroun. Certains parlent même de paralysie du fait des fréquentes attaques de Boko Haram. Récemment, des membres présumés du groupe ont détourné 3 camions de marchandises vers une destination inconnue. Ce nouvel épisode marque un changement de stratégie depuis que le groupe terroriste a commencé à cibler des mosquées au Cameroun. De N'Djamena au Tchad, le reportage de Moki Edwin Kinzeka, lu ici par Bagassi Koura.
Nafisa Adja, vendeuse dans l'un des magasins les plus populaires de N'Djamena, affirme n'avoir pas encore perçu son salaire du mois dernier. Elle n'a pas été payée parce que les affaires sont au ralenti en raison d'attaques régulières contre les camions d'approvisionnement. Le magasin n'a pas reçu de marchandises du Nigeria depuis plusieurs mois. Le chauffeur Togba Amana, âgé de 45 ans, affirme qu'il ne se rend plus au Nigeria par crainte des militants de Boko Haram qui s'en prennent régulièrement aux camions et tuent les chauffeurs.
On voit toujours qu'il y a des manifestations dans les villages voisins. Et peut-être c'est ça qui fait assez que tout est encore bloqué. Mais on espère qu'avec l'encouragement qu'on a ici et le bienfait que l'État ne fait que nous envoyer des hommes en tenue haute, on espère que la vie va changer.
Abdoul Saïd, fonctionnaire de douane du Tchad, confie que rien que samedi dernier, 3 établissements commerciaux de N'Djamena ont perdu leur camion intercepté par les insurgés de Boko Haram à Gambaru au Nigeria. Cette localité est séparée de la ville camerounaise de Fotokol par un pont long de 500 mètres.
Beaucoup de véhicules ont été attaqués par Boko Haram. tout récemment, il y a au moins 3 camions chargés de marchandises et qui ont coûté énormément cher aux commerçants. Et tous ces véhicules avec leurs marchandises ont été emportés par Boko Haram. Et tout ça, ça pèse sur la vie et les activités des commerçants.
Le Tchad et l'extrême nord du Cameroun s'approvisionnent en divers biens à partir de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno. C'est le cas des produits de base et les produits manufacturés comme les téléphones portables, des outils agricoles et des pièces de rechange pour véhicules. Ces biens sont transportés de Gambaru et de Fotokolo du côté camerounais à destination de Kousséri au Cameroun et N'Djamena au Tchad. Le député camerounais Abba Kabir reconnaît que l'activité économique tourne au ralenti dans le nord du Cameroun et au Tchad parce que les insurgés contrôlent toujours les routes d'approvisionnement côté nigérien.
On essaie à faire ouvrir la route entre frontières nigériennes là, donc ce que l'activité un peu va passer. Sinon là, la frontière est bloquée là, donc ça marche même pas.
Enclavé, le Tchad et le nord du Cameroun dépendent également du port camerounais de Douala sur la côte atlantique. Mais la principale route reliant l'extrême nord du Cameroun au reste du pays est souvent prise d'assaut par les insurgés nigériens, nécessitant des escortes armées pour les convois des biens et des personnes. Ces derniers temps, le Tchad se tourne de plus en plus vers le Soudan, son voisin de l'Est, pour ses importations de marchandises. Mais là également, l'instabilité dans l'ouest du Soudan et ses répercussions au Tchad déstabilisent les deux pays.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
À Brazzaville, le Parti congolais du travail, parti au pouvoir, a désigné hier le président Denis Sassou Nguesso, candidat à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Il peut briguer un troisième mandat après 32 ans à la tête du pays, c'est la question. Éric Manirakiza a joint à Brazzaville le secrétaire général du Parti congolais du travail, Pierre Ngolo.
Le crédit, eh bien, mais c'est un peuple, le peuple du Congo. Son candidat, aujourd'hui, c'est Denis Sassou Nguesso. C'est la base du Parti congolais du travail qui s'est exprimé. Mais un parti démocratique prend acte de l'opinion majoritaire. Parce qu'en face, il n'y a personne.
Si en face, il n'y a personne, pourquoi vous organisez des élections alors?
Je dis en face, il n'y a personne qui puisse faire le contrepoint. Les autres, ils existent. Mais c'est simplement l'ambition. Il n'y a personne qui puisse faire le contrepoint.
Que va-t-il apporter de plus à ce qu'il n'a pas fait pendant plus de 30 ans?
C'est d'abord la préservation de la paix et bon, la consolidation de la démocratie. Et de tout ce qui aujourd'hui se présente, il n'y a pas une figure nouvelle avec un projet alternatif crédible. Pourquoi donc tenter l'aventure d'un changement?
Vous n'aimez pas le changement?
Il ne s'agit pas d'aller au changement pour un suicide. Il s'agit d'aller au changement pour corriger. Mais nous n'avons pas en France là des gens qui garantissent bon, une évolution à partir de notre présence.
Pierre Ngolo, secrétaire général du PCT à Brazzaville. Alors pour une réaction de l'opposition, Nani Talani a joint Guy Romain Kinfoussia, un leader de l'une des nombreuses coalitions de l'opposition congolaise à Brazzaville.
C'est un résultat qui était connu d'avance. Ce n'est pas une surprise, ni pour le peuple congolais, ni pour ceux qui suivent l'activité politique au Congo. M. Sassou, de manière unilatérale, a voulu changer la constitution par laquelle il a eu toute la légitimité d'être le président du Congo. Et en cours de parcours, avant la fin de son mandat, il l'a abandonné pour faire adopter par référendum une autre constitution. Un référendum qui s'est mal passé. Sa volonté farouche, c'est d'avoir un troisième mandat, mais en réalité, c'est pour rester au pouvoir jusqu'à la fin de sa vie. Pour se maintenir au pouvoir de manière tout à fait protégée, il est obligé de forcer la loi fondamentale qui lui donnait juste deux mandats. La course vers laquelle M. Sassou est en train de galoper est une course pour se maintenir au pouvoir vitam aeternam.
Maintenant que la course est déjà lancée, que compte faire l'opposition?
L'opposition va y aller à condition que les conditions permissibles soient respectées. Il y a une commission électorale indépendante. On n'a pas un candidat unique parce que ce n'est pas la panacée. Quand on regarde toutes les élections qui se sont passées ces 10 dernières années en Afrique francophone, qui a eu un candidat unique. Alors, il ne faut pas qu'on nous rabâche tous les jours. Est-ce que vous allez aller avec un candidat unique? Ce n'est pas la panacée. Nous allons aller avec des candidats multiples. Oh, pas en grand nombre, mais suffisamment pour que dans les bureaux de vote, nous ayons plusieurs représentants. Parce que M. Sassou va se faire entourer de lièvres pour l'accompagner dans les bureaux de vote afin de clicher.
Guy Romain Kinfoussia, leader de l'opposition à Brazzaville.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse, voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
À une semaine de leur première confrontation électorale dans l'État de l'Iowa, les candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle américaine de novembre ont échangé lundi soir avec les électeurs de cet État. L'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton, le sénateur Bernie Sanders et le gouverneur Martin O'Malley ont chacun présenté ce que leur programme a de spécifique. Timothée Donangmai a recueilli l'analyse d'Emilio Viano, professeur de sciences politiques à American University, ici à Washington.
Bernie Sanders a lancé la première salve, particulièrement soulignant sa capacité de jugement et pas seulement l'expérience de son adversaire. Il a profité pour rappeler le vote de Hillary Clinton en 2002 au Sénat en faveur de la guerre en Irak, ainsi que son soutien au projet d'oléoduc Keystone entre le Canada et le Texas. Deux dossiers dans lesquels l'ancien secrétaire d'État a changé d'avis, contrairement à lui-même. Alors, il lui a donné la possibilité de dire que l'expérience est importante, ce que souligne Hillary Clinton, mais la capacité de jugement, c'est aussi important.
Le sénateur Sanders a aussi dû s'expliquer sur son label de social-démocrate.
Il a clairement accepté cette étiquette d'un social-démocrate qui, dans certaines régions du monde, est bien connue en Europe. Dans d'autres parties du monde, il y a des partis social-démocrates qui souvent sont appréciés parce qu'ils sont centristes à la fin, n'est-ce pas vraiment de gauche, mais de centre-gauche, et ils ont la confiance de beaucoup de monde. Et clairement, Bernie Sanders donne quelque chose de nouveau dans la campagne aux États-Unis, en soulignant, par exemple, que Hillary Clinton a reçu des millions de Wall Street pour des engagements, pour donner des conférences, et qu'il est en actualité une personne très riche et dans laquelle on ne peut pas avoir de confiance quand se traite de superviser, de limiter les pouvoirs du grand monde financier.
Madame Clinton a répliqué qu'elle s'est toujours battue pour les plus vulnérables, les femmes notamment.
Elle parle beaucoup de son histoire et elle dit que dès quand elle était jeune, elle a toujours lutté pour l'égalité, particulièrement l'égalité de tout le monde, des femmes, et qu'elle a travaillé beaucoup pour l'assurance universelle, etc., etc. Mais, comme nous savons, elle a pris acte des sondages qui montrent que le sénateur du Vermont fait quasiment jeu égal avec elle dans l'Iowa.
Le professeur Emilio Viano de l'American University de Washington.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin. Présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
On dit merci à Robert Wagner à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. La production a été assurée par Joselle Morissin. Restez en notre compagnie sur Facebook et bien sûr, visitez notre site internet voaafrique.com. On est ensemble 24 sur 24.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.